Avant 9h, tout est possible.
C'est en 30 minutes, vous écoutez CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous, et je suis rejoint par mon co-animateur pour cette semaine électorale, François G. Couillard, bonjour.
Salut Raymond.
Ça va bien?
Ça va très bien, on est d'attaque.
D'attaque, on se lance cette semaine donc avec cette série de rencontres, et comme je vous disais tout à l'heure, on commence ce matin par des représentants du Parti québécois dans notre belle région. Alors, petit tour de table pour les présentations. Commençons par la candidate d'Antachereau, Agnès Maltais, qui, rappelons-le, a été députée de cette circonscription à l'Assemblée nationale depuis 1998 et a assumé au fil des années les responsabilités de ministre délégué à l'Emploi 2002-2003, ministre délégué à la Santé, Services sociaux, Protection de la jeunesse 2001-2002 et ministre de la Culture et des Communications entre 1998 et 2001. Agnès Maltais, bonjour.
Bonjour, ça va bien tout le monde ce matin?
Oui. Et ensuite, on poursuit le tour de table à son côté. Donc, Hélène Guillemette, qui est candidate dans Jean Lesage, détentrice d'une maîtrise en anthropologie à l'Université Laval depuis 2006. Elle est agente de développement interne pour Hacker d'Hommes, réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Hélène Guillemette, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, le candidat dans Vanier, après des études en journalisme à l'Université Laval et au CERTQ, il a été jusqu'à récemment journaliste pour Québec Hebdo, affecté aux dossiers environnementaux et à l'arrondissement Les Rivières. Éric Boucher, bonjour.
Bon matin.
Alors, peut-être commençons par la campagne. En fait, la campagne qui a été qualifiée peut-être un peu de beige par certains commentateurs. Pas nécessairement de grands enjeux de société qui transparaissent. On essaie de savoir qui va le mieux gouverner. Et sur le terrain, est-ce que vous sentez cette morosité-là? Parce qu'on disait, regardez, c'est le PQ qui a peut-être le plus à perdre et le plus à gagner, puisque il traîne, en fait, dans les sondages, quoi, à peu près 10 points derrière le Parti libéral. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette morosité-là est peut-être en train de vous desservir? Est-ce que vous la sentez sur le terrain?
D'abord, on va regarder les sondages plus sérieusement, excusez-moi pour le mot plus sérieusement que ça, mais il y a quand même un troisième parti qui avait pris beaucoup de force au Québec, qui s'appelle l'Action démocratique, qui lui est en baisse constante. Et il y a un repositionnement politique au Québec, effectivement. Il y a, dans toute campagne électorale, toutefois, il y a des moments forts. Le début de la campagne où ensuite chaque chef, et ce sont des campagnes présidentielles, des campagnes de chefs, chaque chef a posé ces grandes annonces, mais au début, ça a été un peu perdu parce que les gens étaient en colère contre le fait d'être en élection. C'était vraiment le sentiment populaire, c'était on ne veut pas d'élection, il y a eu les fédérales, on se lance en élection, ça n'a pas de sens. Alors, ensuite, là, on est à peu près à mi-campagne, tout le monde attend le débat. Nous, on a fait des initiatives régionales pour percer ce sentiment-là. Puis après, on va arriver vers la fin où il y a peut-être, on me dit, 10 à 15 % des gens qui se positionnent dans les 4 derniers jours. Voilà un peu le sentiment de la campagne.
Et en même temps, ce qu'il faut dire dans Québec aussi, et même en général, si je reviens un peu sur quelques articles de presse dans le passé, le 15 novembre dernier, par exemple, Le Soleil nous faisait état de problèmes d'organisation dans la capitale. On disait que les blessures de la période Boisclair n'avaient pas toutes été pansées. Il y avait un ancien candidat qui disait « Il faut pas se surprendre, c'est un secret de polichinelle que le PQ est un parti en reconstruction et n'était pas prêt aux élections ». On sait qu'au niveau national, le Parti québécois a démarré sa campagne dans le rouge. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce que vous avez été pris un peu les culottes à terre ou c'est un peu exagéré dans les médias finalement?
Personne ne souhaitait cette élection-là, y compris nous. Le Parti québécois, c'est certain que c'est un parti de passionnés. Les gens qui composent ce parti-là sont des gens passionnés. Puis les gens passionnés, c'est sûr que dans des situations, il peut se produire toutes sortes de choses. Mais sur le terrain, on le voit aussi que les gens sont passionnés. On travaille fort et il y a un engouement et on sent que les choses bougent, même si. Effectivement, comme on le mentionnait tantôt, les gens n'en veulent pas cette élection-là, ils sont choqués. On verra si le gouvernement Charest en paiera le prix au moment du vote, mais nous sommes des passionnés et ça se voit aussi au niveau des partout.
Il y avait quand même, l'article que vous citez est assez amusant, il y a un ancien candidat, un militant qui n'en est plus un, il est au Parti indépendantiste, donc c'est facile de taper sur le PQ, et le troisième est un anonyme. Alors, quelle source, mesdames et messieurs, quelle source?
Mais quand même des proches du PQ, là, néanmoins. Là.
Non, c'est des anciens militants, puis un anonyme que je ne connais toujours pas.
Oui,
ce que je vous dis, moi, c'est que, par contre, nous avons essayé d'innover dans la région, Et il y a plein de régions qui essayent de nous copier parce qu'on a fait un journal Québec gagnant qu'on a distribué comme Média Matin pour essayer justement de percer le mur de l'indifférence. Et on l'a distribué le matin directement aux gens, faire connaître des candidatures régionales comme Hélène, par exemple. Hélène Guillemette qui est dans Jean Lesage.
Je pense que l'indifférence est vraiment présente, puisqu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a même pas une semaine qui disait qu'il y avait 62% de gens qui n'étaient pas intéressés à la campagne. C'est un sondage Le Soleil. C'est quand même... on parlait de morosité tout à l'heure, je pense que c'est bien vrai.
C'est un peu ce qu'on entend sur le terrain. De toute façon, les gens nous disent on est tanné des campagnes électorales coup sur coup. On veut pas aller voter pour réagir contre le fait qu'on est en campagne électorale encore une fois. Mais ces gens-là, s'ils veulent vraiment réagir au déclenchement d'élection de Jean Charest, il faut qu'ils aillent voter. C'est extrêmement important.
Et est-ce que vous avez l'impression que le PQ s'est peut-être mis un peu de plomb dans l'aile en disant, regardez, bon, la souveraineté, on en discutera plus tard, on en discutera dans une prochaine élection, dans un prochain mandat, si on est élu au gouvernement, alors que ça aurait été quelque chose, justement, qui aurait peut-être été canalisé, qui aurait peut-être été lutté contre cette morosité-là. Est-ce qu'on a fait une erreur en mettant la souveraineté de côté?
On n'a pas mis la souveraineté de côté. On a mis la date du référendum de côté, date du référendum sur laquelle les autres partis sont toujours heureux de nous voir... essayer d'expliquer ou de s'entre-déchirer. On n'a pas mis la souveraineté de côté. On n'a pas mis d'obligation de faire un référendum dans le prochain mandat, mais on ne s'est pas donné d'obligation de ne pas en faire un. Mais c'est de la souveraineté dont il est question. Nous croyons encore, toujours, surtout, qu'il est important que nous devenions un pays, que nous prenions le plein contrôle de nos affaires. C'est tout simple, la souveraineté.
Là, dites-moi, Agnès Pelletier, vous venez de me tendre une perche. Vous avez parlé justement de centre déchiré. Hier, justement, dans l'entrevue avec Pauline Marois, tout le monde en parle, il en parlait justement, il disait qu'il y avait un communiqué interne dans le parti qui avait dit que Pauline est snob. Donc, il y a aussi Gilbert Lavoie, qui est chroniqueur au Soleil, qui dit que l'idée d'avoir Gilles Duceppe comme successeur de Pauline Marois fait son bonhomme de chemin déjà. T'sais, Pauline Marois, ça fait déjà pas longtemps qu'elle est chef du parti. Mais c'est quoi le problème avec les chefs, coudonc, au Parti québécois? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, écoutez, là, c'est Mme Marois est partie à rire, puis elle dit, écoutez, bon, on dit que je suis snob, franchement, je suis proche du monde. Bon, les gens me découvrent. C'est ça une campagne. Vous m'étonnez, c'est KRL ce matin. Vous m'étonnez. Vous avez ouvert en disant, on ne parle pas des programmes, on ne parle pas des plateformes. Je suis ici parler d'économie, de santé, d'éducation, d'un enfant, une place, d'une famille, un médecin, d'un entrepreneur, une réussite. Et encore une fois, pendant cette campagne, on tombe dans le panneau de parler des chefs, des personnalités, des rumeurs, des insatisfactions.
J'ai hâte
de parler, moi, des vrais enjeux de cette élection, qui est comment on va vivre au Québec.
Faut dire qu'on a une heure et quart. Alors, on s'est dit, on met tout ça de côté au début, on passe ça de côté. Après ça, on peut se centrer sur les vraies affaires, comme on dit. Ça, c'est le plan de match. Mais peut-être une petite question, ce qu'on parle. Ben, justement, vous avez amené, Mme Maltais, sur le bilan, sur la plateforme. Vous l'avez mentionné, vous avez proposé une plateforme ici à Québec. Et on a l'impression que les dollars pleuvent pour la capitale. Alors, on se sent quand même assez choyé d'être ici. 120 millions de dollars pour la DQ, 135 millions de dollars pour le Parti libéral du Québec, 170 millions pour le PQ. On est en crise financière. Alors, est-ce qu'on a l'impression que c'est pas un peu exagéré, ces promesses-là, ça anime un scepticisme là, du côté de la population à voir ces chiffres-là tomber? Là.
En même temps, ces investissements-là peuvent aider à créer de l'emploi. Si on pense seulement à notre projet, on est les seuls qui ont mis de l'avant l'idée de construire un colisée en bois pour aider l'industrie forestière.
Donc, mais ça a été récupéré par tous les autres partis quand même.
Oui, mais c'est nous qui avons eu l'idée au départ. Donc, il y a des façons d'amener ces enjeux-là et qui tiennent à cœur à la population. Là, on a eu un superbe 400e, une superbe énergie. Et il y a un dynamisme dans la région de Québec qui est revenu. Il y avait une certaine morosité qui s'était peut-être installée, mais là, on sent qu'on a le goût de faire des choses et d'aller de l'avant. Et tous ces projets-là, s'ils sont bien faits, ils sont gérés de façon intelligente, comme on le ferait, ça va créer de l'emploi et ça va contribuer à créer de la richesse.
Est-ce qu'on a vraiment 170 millions à investir dans la région?
Oui, c'est l'annonce qu'on...
Est-ce que où on va trouver cet argent-là, dans le fond? Est-ce que Est-ce que c'est parce qu'on se dit, ben regardez, la situation est difficile, on promet 170 millions, les promesses qui chiffrent à des milliards, on faisait des sorties là-dessus du côté de la DQ, on a peut-être des gens qui regardent ça, qui se disent, ben, mon Dieu, les politiciens promettent trop.
Il y a une croissance économique normale. Normalement, on fait des projections extrêmement prudentes. C'est tout le programme du Parti québécois, c'est 1,6 milliard sur un mandat complet, donc sur 4 à 5 ans. En 10 ans, on est en crise financière, il faut investir parce qu'il ne faut pas laisser retomber. Puis c'est pas vrai qu'on va retomber là, dans des taux de chômage effarants et que notre monde va s'appauvrir. Mais deuxièmement, on a aussi mis un ordre de priorité. Par exemple, la promesse, l'engagement, je dis plus engagement, l'engagement important, c'est une famille, un enfant égale une place en garderie. On a chiffré comment ça coûte. Puis écoutez, Mme Marois, en plein déficit zéro, a réussi à bâtir tout le réseau des centres de la petite enfance. Mais il y a une crédibilité totale dans ce domaine-là. Puis elle a dit, écoutez, ça là, on va le faire. On va prendre les moyens pour le faire, puis elle a dégagé ensuite, santé, éducation, elle a dégagé grande priorité. Donc, il y a une certaine prudence à ce niveau-là. Mais
là, on parle des investissements peut-être à Québec. Il y a un truc qui m'a surpris là-dedans, c'est le 5 millions qui est octroyé pour le moulin Image, pour faire revivre le moulin Image. Moi, c'est une promesse du Parti québécois quand même. Donc, je trouvais ça bizarre, 5 millions pour le moulin Image, c'est un truc qui a été fait pour les festivités du 400e. Si on fait ça après les 400e de Québec, est-ce que ça va marcher encore autant? Est-ce que ça vaut vraiment 5 millions? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Peut-être qu'il y aurait des choses plus importantes que moulin Image, je ne sais pas.
On pourrait le réfléchir en termes de retombées économiques aussi, parce qu'on sait que la culture a d'énormes retombées économiques, notamment dans la région de Québec, surtout depuis le 400e. On pourrait se ramener au niveau local aussi, parce que je vous donnerai l'exemple dans le comté de Jean Lesage. Moi, j'ai dévoilé la semaine dernière une plateforme électorale qui se raccroche. Moi, j'ai pas de promesses en termes d'investissement, mais je me raccroche pour mes engagements à la plateforme régionale et à la plateforme nationale. Alors, dans la plateforme nationale, il y a 200 millions de dollars en fonds d'investissement stratégique. Ce 200 millions de dollars-là, c'est essentiellement du capital de risque. Et ce que ça veut dire pour un comté comme Jean Lesage qui a besoin de développer des entreprises, ça veut dire un investissement pour créer de la recherche et qui va ramener de l'argent au gouvernement, parce que dans le fond, on va faire des profits avec ça.
J'ai levé le sourcil quand vous avez dit tout à l'heure 5 millions pour le moulin Image. Je vais juste rectifier un petit peu le tir. C'est 5 millions de dollars qu'on veut amener pour la culture en fonds de développement culturel à Québec. Donc, ça va permettre, entre autres, de refaire le moulin Image. Mais ce qu'on veut, c'est que ça aille dans l'entente. Peut-être le véhicule sera l'entente McVille, qui voit justement à soutenir des événements, mais de la culture. Alors, c'est un investissement culture générale beaucoup plus large que seulement le moulin Image. Et ça, dans la région, croyez-moi, les artistes, ils en ont besoin, puis ils sont contents. Il y a plein de projets dynamiques qui souvent passent par CKRL, d'ailleurs. Vous êtes très forts pour aider la relève et les nouveautés, les nouveaux concepts. Ben, il y a un petit coup de pouce, ça va faire du bien, je pense.
J'aimerais qu'on reste peut-être encore quelques instants dans le général pour terminer le premier bloc. Deux questions pour terminer. Premièrement, on a fait face dans la dernière année et demie à peu près à un caucus ADQ dans la région, gouvernement libéral. Du côté du PQ, quel bilan vous faites du travail du gouvernement, du travail du caucus ADQ dans la région?
L'inertie. Si je pense à ma circonscription, au travail de Sylvain Légaré qui était plus souvent à Salt Lake City, à Winnipeg, à Ottawa, à visiter des arénas, il a fait de du Colisée son dossier prioritaire, puis et finalement son patron, Mario Dumont, l'a appuyé mais dans ce dossier-là, mais tout de même pas plus que le Parti libéral puis le Parti québécois. Donc, en ce sens, il faut être sur le terrain, les enjeux. L'équipe n'était pas préparée et a passé donc les derniers mois à se préparer, à gagner en compétences. Mais c'est un bilan d'inertie pour la région. La région a voulu voir ce que la DQ pouvait faire pour elle. Puis on a réalisé que d'avoir la DQ ici dans la région, c'était probablement pas profitable pour la population.
Et pourtant, Dumont a été dire, lui, que ça avait été la bougie d'allumage du 400e, l'élection de la DQ.
On peut en rajouter pour le député d'Adéquiste, dans Jean Lesage aussi. Il était critique responsable du tourisme, et moi, je ne l'ai jamais entendu là-dessus. Son engagement, quand il a été élu, ça a été de revitaliser d'Estimauville. C'est encore le même cette fois-ci, parce que la seule et unique idée qu'il a eue pour revitaliser d'Estimauville, c'est de relocaliser des fonctionnaires fédéraux, un dossier sur lequel il n'y a aucune espèce de prise, à part de faire signer des pétitions. Et là,
vous parlez de Jean-François Gosselin.
Oui. Et là, cette fois-ci, il y a encore la même seule et unique idée, qui est de relocaliser encore des fonctionnaires, mais de cette fois-ci des fonctionnaires du Québec. Or, ces fonctionnaires-là, cette idée-là était déjà sur la table de travail du Parti québécois avant 2003, et les libéraux l'ont balayée.
Mais en fait, il y a un argument que j'ai déjà entendu à quelque part, je vous le lance simplement pour entendre votre réaction face à ça. On nous dit, chez certains, regardez, la région va bien économiquement, on vient de finir le 400e, il y a un essor, ça va bien à Québec. Donc, pourquoi changer de capitaine dans la région?
Pourquoi changer de capitaine dans la région? Parce qu'il n'offre rien pour l'avenir. Il a surfé sur le 400e anniversaire de Québec, M. Charest. La promenade Samuel de Champlain était dans les cartons du Parti québécois. C'est Paul Bégin, à l'époque, qui était ministre de la Capitale, qui a réservé les terrains, qui a fait tout le travail. C'est le caucus du Parti québécois qui était très fort, qui a obligé le ministère des Transports à tasser le boulevard pour qu'on ait accès au fleuve, enfin. C'est le Parti québécois qui a développé le quartier Saint-Roch avec tous toute l'industrie du divertissement qui s'est installée, qui fait qu'il y a un lien entre les artistes et le techno qui s'est installé là. Il y avait une vision, il y avait une diversification de l'économie. Alors, à part surfer sur le 400e, qu'est-ce qu'il a fait, Jean Charest, dans la région? Rien. Mais vraiment rien, sauf diminuer les fonds pour l'industrie touristique. Couper dans les crédits d'impôt pour l'industrie, justement, des nouvelles technologies. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est, écoutez, si vous voulez vraiment une équipe qui a une vision pour la capitale, une vision de son développement, une vision d'avenir, une vision aussi de la justice sociale et de l'équité, c'est nous, c'est le Parti québécois qui a développé ces choses-là. Du côté de la DQ, on a assisté à la même rencontre, je vous dis une chose, les députés de la DQ et moi, concernant les places en centre de petite enfance dans la région, ils ont appris comme moi que le ministère de la Famille voulait qu'il n'y ait que 38 places supplémentaires à Québec, supposément qu'il y a assez de places à Québec. En garderie, j'étais tombé en bas de ma chaise. Ils n'ont pas dit un mot. C'est moi qui ai fait une sortie pour dire, écoutez, ça prend au moins minimum de 1000 places dans la région, ça n'a pas de bon sens, on est en sous-développement. Mais c'était un silence total, et le même jour, on avait la même information. Comme sur Lise Thibault, la commission parlementaire, nous avions la même information dans les mains. Ils n'ont pas livré la marchandise. Et Jean Charest a surfé sur le 400e, et il ne fait que surfer sur des projets d'infrastructure, pas un mot sur la culture, pas un mot sur le capital de risque, sur le développement. Hélène Guillemette a soulevé le fonds de capital de risque tout à l'heure. Pas un mot là-dessus du Parti libéral. Aucune vision.
Alors ben, on prend une petite pause peut-être là-dessus. On va jeter un petit coup d'œil sur votre vision au fil de la prochaine heure, dans le fond. Alors, je vous rappelle, je suis toujours en compagnie d'Agnès Maltais, candidate dans Taschereau, Hélène Guillemette, candidate dans Jean Lesage, Éric Boucher, candidate dans Vanier, donc François Gécouillard et moi-même, Raymond Poirier. On est avec vous jusqu'à 8h45 ce matin. On s'en va en musique avec K.
Je voudrais faire l'amour avec toi, je voudrais m'en mêler dans tes bras, je voudrais me saouler à ta joie, je voudrais faire la paix avec moi, je voudrais faire l'amour avec toi. Seulement voilà, toi t'es pas là, alors je me dis je vais faire comme ça. Moi j'ai qu'à faire l'amour sans toi, et j'essaie l'amour dans la rue, j'essaie l'amour avec la vue, j'essaie l'amour avec les mots. Pour le vieux monsieur des journaux, on dirait qu'il me comprend pas. Il me rend ma monnaie comme ça, on dirait qu'on n'existe pas. Et monsieur, regardez, c'est moi. Je voudrais faire l'amour avec
avec toi. Je voudrais m'en mêler dans tes bras, je voudrais me saouler à ta joie. Je voudrais faire la paix avec moi, je voudrais faire l'amour avec toi. Seulement voilà, toi t'es pas là, alors je me dis je vais faire comme ça. Moi j'ai qu'à faire l'amour sans toi. Et je fais l'amour dans la rue, je fais l'amour avec la vue, je fais l'amour avec les mots. Pour les arbres et pour les oiseaux, on dirait qu'ils me comprennent eux. On dirait qu'ils répondent un peu, on dirait qu'on va où on veut. Et t'as vu comme le ciel est bleu, bleu, bleu. Et je fais l'amour dans la rue, je fais l'amour avec la vue, je fais l'amour avec les mots pour les arbres et pour les oiseaux. Et puis même quand il y a de l'orage, quand c'est tout gris qu'on a la rage, et même quand partout il pleut, moi je crois qu'on est où on veut. Je fais l'amour avec toi, et je m'en mêle dans tes bras, et je me saoule avec ta joie, et je fais la paix avec moi, et on fait l'amour dans la rue, on fait l'amour avec la vue, on fait l'amour avec les mots pour les arbres et pour les oiseaux, et voilà. Et voilà.
Et voilà, on vient d'entendre K, l'artiste suisse, avec l'amour dans la rue, toujours à l'antenne de CKRL 89.1. Je vous rappelle, toujours en compagnie de Raymond Poirier et François G. Couillard, qui sont eux-mêmes en compagnie de trois candidats du Parti québécois, Agnès Maltais dans Tachereau, Hélène Guillemette dans Jean Lesage, Éric Boucher dans Vanier. Et j'aimerais faire une petite parenthèse dans l'entrevue pour mettre de côté aussi le dossier. On en jase beaucoup au niveau provincial. La crise économique, un peu tous les partis se sont présentés au départ en disant, regardez, nous sommes le bon gouvernement à mettre en place en situation justement où il y a risque économique. Alors j'aimerais qu'on prenne peut-être une minute et demie. Vous faites un peu comme vous voulez, mais vendez-moi votre salade. Pourquoi, contrairement au Vert, au PQ, à l'ADQ, pas au PQ puisque vous êtes le PQ, mais au PLQ, au Québec solidaire, bref, par rapport aux autres partis, pourquoi c'est vous qu'on devrait mettre au gouvernement?
Ben là, premièrement, une décision comme celle que le gouvernement Charest a pris de nous envoyer en élection à une période d'incertitude économique, de bloquer finalement la machine où il doit se prendre des décisions pendant 3 mois, ça démontre à quel point ce parti-là, cet homme-là, est complètement déconnecté de la réalité et n'a pas de vision. Et ça, c'est une très, très, très mauvaise décision économique. Nous, par respect pour les travailleurs, c'est sûr qu'il y a une situation, on va vivre une situation économique qui va probablement se détériorer, même si la position du Canada, du Québec, pour l'instant, est enviable dans l'OCDE. Mais ce qu'on peut s'engager et ce qu'on croit, c'est qu'on doit en tout temps respecter la dignité et les travailleurs, les familles qui vont vivre, par exemple, dans le cas de la situation de Donnacona. Donc, c'est d'appuyer les entreprises, ne pas leur conter des histoires, et de travailler avec eux en concertation pour trouver des solutions pour aider l'économie dans des situations difficiles, d'être imaginatif, d'être réceptif à toutes les possibilités. Et ça prend de la vision, ça prend de la détermination, et c'est ce qu'on a au parti. On a une expérience solide aussi dans ces dossiers-là.
Il faut savoir aussi que en période de crise économique, ce qui arrive souvent, c'est des coupures de services. Et il faut connaître aussi les personnalités des partis. Le Parti libéral, c'est le parti qui s'occupe pas trop des démunis. C'est pas trop payant politiquement. L'ADQ, c'est le parti de l'effort. L'ADQ, il dit bon ben si vous voulez réussir dans la vie, ben faites un effort. Il y a des gens qui sont pas en état de faire des efforts, et ça, faut le savoir. Faut le savoir pour vivre dans chacun de nos comtés, n'est-ce pas? Alors, je crois que le Parti québécois, c'est celui qui est le mieux équipé pour, en termes d'idéologie, en termes de personnalité de parti, pour s'occuper des personnes.
Vous parlez de vous occuper des personnes. Je vous ferais réagir peut-être à la sortie justement de Mario Dumont. La proposition, eux disent, regardez, on va signer un contrat à 70 000 bénéficiaires d'aide sociale pour les amener à retourner au travail. Est-ce que c'est une bonne piste? Sinon, vous, qu'est-ce que vous allez faire?
J'en reviens pas qu'on pense encore que la pensée magique va faire que les gens vont retourner au travail demain matin comme ça. C'est pas simple, là, les difficultés qu'ils vivent. Ce qui est la meilleure manière de sortir les gens de la pauvreté, d'abord, c'est de vivre ce qu'on a fait, c'est-à-dire de créer de l'emploi, puis après ça, de les aider à devenir employables. Ce que propose Mario Dumont, c'est basé sur une prémisse qui, moi, me fait faire des frissons, qui me choque, qui m'enrage, je vais vous le dire. C'est de dire, il y a des gens qui sont abonnés à l'aide sociale, voyons donc. C'est 567 $ par mois, ils s'arrachent le cœur pour vivre, ils sont dans une soupe alimentaire, ils sont dans un comptoir alimentaire. Puis on s'en va dire qu'ils sont abonnés, qu'ils aimeraient ça, que c'est plaisant. Je suis horrifié, moi, quand on voit des gens qui se parlent sur des prémisses comme ça, puis qui amènent des politiques. Oui, le travail, c'est la dignité, puis c'est une meilleure façon de vivre, mais il faut aider les gens, et non pas, comme j'ai entendu ce matin dans une autre radio, leur botter le cul. Excusez-moi, mais c'est les expressions que j'entends sur des radios. Alors moi, je pense qu'il faut aider le monde. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est aider le monde.
Mais comment vous allez les aider, justement?
Dès janvier 2009, parce qu'on est en crise financière et que les petits retraités que le monde ont vu leur marge de manœuvre diminuer. L'hydro coûte cher, beaucoup plus cher maintenant que sous le Parti libéral qui a fait augmenter les tarifs d'électricité. Janvier 2009, un chèque à tout le monde de 200 $ aux gens qui ont un crédit TPS TVQ. Pourquoi? Un, ça va les aider à passer au travers. Deuxièmement, ces gens-là, ils n'achètent pas des produits de luxe, ils achètent des produits de base, et ça, c'est une injection directe dans l'économie, ça va faire un boost intéressant. Ça va aider le monde, d'abord.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là, ces gens-là?
Ils vont acheter à manger, ils vont acheter des vêtements d'hiver pour le petit, des bottes, ils vont acheter des choses toutes simples qui font que tout à coup, ta vie est plus facile.
Et en parallèle, il y a d'autres groupes sociaux qui ont proposé dans le passé, et c'est repris un peu, je pense aussi, par Québec solidaire, d'augmenter le salaire minimum. Eux ont fixé à 10,43 $ de l'heure en disant, regardez, c'est ce qui permet d'atteindre le seuil minimal de pauvreté quand on travaille 40 heures semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui serait réalisable ou c'est du grand n'importe quoi?
Suite à la demande des groupes sociaux, on a dépolitisé justement les hausses et les baisses du salaire minimum, ce qui fait que cette année, par exemple, ça a été augmenté de 50 cents d'un coup. Mm-hmm. Parce qu'il y a maintenant des groupes qui s'entendent, qui se réunissent sous l'égide, sous la responsabilité du ministère du Travail et qui voient à ce que le salaire minimum augmente. Or, justement, depuis que nous, au PQ, on a créé ça, c'était sous notre époque que ça s'est fait, suite à toute la bataille de la lutte contre la pauvreté, ben là, les hausses se font régulièrement et de façon plus solide. Alors, je pense que c'est mieux de dépolitiser ce débat-là et que c'était une bonne chose.
Je fais finir ma petite parenthèse. Après ça, je te laisse avec les parenthèses de ton côté, François. Au niveau de l'économie sociale, on sait que c'est une économie qui est quand même un moteur intéressant pour la région. Il y a quoi, 600 entreprises quand on compte pas les coopératives. Il y a eu un encouragement qui a été donné au niveau provincial par Charest juste avant d'aller en élection, un peu au-dessus de 10 millions de dollars. Est-ce qu'on considère que c'est déjà suffisant ou est-ce que du côté du PQ, on dit on veut donner plus de place à l'économie sociale? Et si oui, de quelle manière vous allez donner plus de place à cette économie-là?
Écoutez, l'économie sociale, ça a démarré, le chantier de l'économie sociale, ça a démarré sous nous, et avec des Louise Arel et des Pauline Marois. Alors oui, on veut donner plus de place à l'économie sociale, c'est une très, très, très belle façon de bâtir. Je sais que M. Charest a promis 10 millions, on va être là-dedans. On n'a pas recalculé les choses qui étaient déjà comme engagées ou promis quand c'était un gouvernement. On n'était pas en campagne électorale. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que le chantier de l'économie sociale était très, très, très content. Alors, on va être là, parce que ça fait partie des choses dans lesquelles on croit puis qu'on a bâti.
On est dans la section économie, infrastructure. Donc, on parle aussi de la crise forestière. Donc, le PQ, votre parti a proposé, laisser entendre que peut-être que les contrats d'attribution de traitement du bois a été accordé de façon partisane, donc des comtés dans lesquels il y a des députés élus du Parti libéral, il y avait plus de chances d'avoir des contrats pour ce qui est du bois. Donc ça semble être une accusation un peu fallacieuse. Est-ce que vous la maintenez toujours, cette accusation-là?
Écoutez, je réponds beaucoup, mais c'est parce que je suis depuis longtemps député, ça me donne beaucoup d'informations. Mais ce sont les citoyens qui ont dit ça, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les propriétaires d'entreprises.
Je pense que le PQ a quand même récupéré ça un peu. Là.
On était là ce jour-là et on a eu la grande surprise d'entendre cette accusation-là. Mais puis on a dit, écoutez, là, c'est du sérieux.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, on l'a endossé parce que ce sont les entrepreneurs qui l'ont dit. Mais je veux juste dire que la base, le départ, ce sont des entrepreneurs de région qui en ont assez. Sur Donnacona, sur Donnacona, ici dans Portneuf, là, on a vraiment entre les mains une situation qui le démontre. Le bois, il s'en va dans le comté de Julie Boulet, qui est ministre. Il s'en va dans son comté, dans sa région.
Et vous pensez que ça a été fait on a de fermé façon, l'usine. Consciente?
C'est ce que les gens nous disent. Et puis, on n'a pas de raison de croire qu'ils n'ont pas raison.
Imaginez si on se retrouve avec un gouvernement libéral majoritaire, comme le souhaite Jean Charest. C'est 11 ans de gouvernement libéral. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est sous l'époque de Duplessis. On appelait ça la Grande Noirceur. Et c'était une époque où il y avait la porte était ouverte à tout ce qui était favoritisme, pot de vin, etc. On ne dit pas que ces allégations sont vraies, mais quand elles viennent du milieu, c'est particulièrement préoccupant.
Et là, on part du provincial, on descend tranquillement vers le local. Jetez un petit coup d'œil, on a parlé d'économie. J'aimerais qu'on parle aussi un peu d'infrastructure au niveau d'ici, de Québec. Premièrement, on a parlé en ouverture de la promenade Samuel de Champlain. On a dit que ce serait une bonne idée d'investir quand même un bon montant. C'est d'ailleurs dans votre plateforme régionale. Pour la prolonger, il y a des groupes, je pense à la zone d'intervention prioritaire de Québec, choisir la plage, qui disent oui, mais on investit quoi, 60 millions de dollars en fait globalement pour cette promenade-là venant de différents stades, de différents degrés de gouvernement. Pourquoi on prend pas cet argent-là, on l'investit pas pour rendre accessible le fleuve à plusieurs endroits à place de concentrer un seul endroit? Est-ce qu'on sent encore que le projet reste justifié ou on a l'impression d'être peut-être en train de manquer le bateau en disant on redonne l'accès au fleuve à un endroit seulement?
C'est une première étape. À l'origine, le projet devait être complété. Le gouvernement Charest a décidé de couper dans le projet. Et là, pour réaliser finalement que c'est tellement une bonne idée, les gens ont tellement aimé l'idée, donc de rajouter le bout qui était prévu initialement par le Parti québécois. Donc ça, c'est de l'argent gaspillé. Ça, c'est si on avait intégré cette portion-là, on n'en parlerait pas d'abord ce matin, ce serait fait, la promenade serait complétée, on n'aurait pas à repenser le projet et le réinitialiser. Donc les montants qu'on doit accorder à cette portion-là pourraient être accordés justement à une autre portion du fleuve pour redonner l'accès, mais malheureusement, le manque de vision du Parti libéral dans ce dossier-là, comme dans plein d'autres, fait qu'il y a une dépense encore injustifiée à une période où on devrait pas dépenser des sommes inutilement. Donc la vision, encore une fois, c'est ce qui manque au Parti libéral.
Et est-ce qu'on parle aussi de manque de vision dans le dossier du port de Québec qu'on veut agrandir juste à côté de la baie de Beauport qu'on vient de retaper?
Moi, j'irais là-dessus en vous disant, en revenant sur la question de la promenade Samuel de Champlain, pour vous dire que c'est pas le seul modèle d'accès au fleuve Saint-Laurent. Dans le comté de Jean-Lesage, on a une vision du développement d'Estimauville qui inclut un accès ouvert à la baie de Beauport. Alors, il n'y a pas juste la promenade Samuel de Champlain qui existe là.
Mais justement, dans le secteur d'Estimauville, est-ce qu'on craint un peu l'agrandissement du port de Québec qui est un peu dans les cartes? On dit, ben regardez, on aimerait ça agrandir. Peut-être que ça va se faire justement du côté de la baie de Beauport. Quel regard on porte sur cet agrandissement-là?
C'est une question qui doit être examinée de façon très, très sérieuse parce qu'il y a des questions environnementales qui jouent là aussi. Alors, le projet qu'on a, nous autres, c'est un projet de développement, c'est une vision du développement global de Destimoville. Alors, évidemment, il n'y a pas juste des fonctionnaires fédéraux qui vont aller là, mais il y a donc ce projet d'ouverture qu'il faut examiner avec les acteurs du milieu, avec autant les gens en environnement que les gens en économie, que les gens au niveau du social.
Sur l'agrandissement du port aussi, là, il faut savoir qu'on nous raconte qu'on est en... quand on s'en occupe, parce que moi, je m'en occupe depuis longtemps, puis la baie de Beauport, on a travaillé très fort le PQ pour que, justement, elle soit accessible pour le monde. Là, c'est un dossier où j'étais, moi, j'avais même menacé le PDG du port de dormir là avec la gang, puis de dire, regardez, là, on va dormir ici, mais on va l'occuper, le territoire. On l'a occupé. On est fiers de ça. Mais l'agrandissement du port actuellement, d'après ce que nous disent les groupes, menace la survie de la baie de Beauport. Ça, c'est très préoccupant. Deuxièmement, il ne faut pas que ce qu'on pense que c'est du territoire fédéral, c'est du territoire québécois, que le fédéral soit ici d'accord, qu'on travaille avec lui. Moi, je suis obligé de vivre avec, là. Je suis souverainiste, je suis obligé de vivre avec. Mais on n'est pas en territoire fédéral. Moi, je pense qu'on est en territoire québécois. Il va falloir que le port s'explique avec les gens du Québec. Autre chose, sur le CA du port, il y a un représentant du ministère des Transports. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement du Québec n'exige pas des comptes du représentant du ministère des Transports qui est sur le CA. Croyez-moi, la journée où on va prendre le pouvoir, on va s'asseoir ensemble, toute la gang du caucus de Québec, Hélène Guillemette, dans Jean Lesage particulièrement concernée, puis on va se jaser ces développements du port.
Et peut-être, en fait, une dernière question sur les infrastructures avant d'aller en pause. De mon côté, en fait, on a parlé aussi beaucoup d'infrastructures sportives. J'aimerais terminer là-dessus. Dans votre plateforme, vous parlez d'un appui financier à un éventuel amphithéâtre pour remplacer le Colisée. Vous parlez de recouvrir l'anneau de glace Gaétan Boucher. C'est des projets, il faut dire, qui sont très, très populaires dans la région, qui ont été entérinés d'ailleurs par l'ADQ, par le Parti libéral. Est-ce que c'est des projets, vous les appuyez parce que c'est des projets qui sont populaires ou parce que c'est des projets qui sont nécessaires?
La santé, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Les gens, les familles, la santé, c'est quelque chose qui nous préoccupe particulièrement au Parti québécois. Et encore une fois, quand on parle de vision au Parti québécois, c'est pas seulement de traiter les gens de façon humaine et adéquate avec tout les projets qu'on a d'une famille, un médecin, mais c'est aussi de par la prévention. Et la prévention aussi, c'est de tout faire pour remettre en action nos jeunes et la population en général, que les gens aient accès à des infrastructures sportives adéquates.
Mais dans ce sens-là, on serait pas mieux de dire, ben OK, on fait pas de Colisée, on y va plutôt avec cet argent-là, 50 millions qu'on promet pour construire des arénas dans les arrondissements à la place, un peu comme le propose Québec solidaire.
Un n'empêche pas l'autre. C'est que l'anneau de glace, effectivement, va profiter à la population. En même temps, il y a des façons, en partenariat avec les gens du milieu, mais en travaillant en concertation avec les leaders, d'utiliser toutes sortes d'infrastructures sportives qu'on a dans nos circonscriptions, par exemple dans les écoles, des infrastructures qui ne sont utilisées que partiellement, et en travaillant en concertation, les rendre plus accessibles, sans encore une fois, en le faisant de façon intelligente, on n'a pas besoin de dépenser des sommes faramineuses pour arriver à faire ça. Et ces infrastructures-là vont faire que les jeunes, entre autres, on a des jeunes de 15 ans qui ont de plus en plus sédentaires, qui ont le corps physique de personnes de 30 ans. Donc, les inciter à se remettre en action pour que cette population-là soit de plus en plus active et en forme. Et dans cette perspective-là, ben on aura peut-être des jeunes qui vont pouvoir éventuellement jouer dans une nouvelle franchise de la Ligue nationale dans le Colisée qu'on aura ici à Québec.
Et est-ce que ça, c'est dans le communiqué de la plateforme, c'était pas là? Pourquoi ne pas l'avoir chiffré dans la plateforme, cette initiative-là?
Bien, c'est justement parce que ce ne sera pas des dépenses faramineuses et c'est de travailler en concertation avec les gens du milieu et chaque député pourra, du Parti québécois ou ceux qui travaillent pourront, c'est quelque chose qui pourrait être fait en concertation, mais ça prend de la vision, ça prend de la volonté et ça prend de l'écoute aussi des citoyens. Les gens ont tellement de bonnes idées et j'ai l'impression, et les leaders du milieu, mais j'ai l'impression qu'on les écoute tout simplement pas en ce moment. Les députés présents de l'ADQ du Parti libéral dans la région de Québec n'écoutent pas ce que les citoyens, les leaders du milieu ont à dire. Et à une période où les fonds vont peut-être être moins importants et on va devoir être plus sévère ou avec les cordons de la bourse, mais c'est important d'écouter les bonnes idées et de les mettre en action et d'être à l'écoute de la population.
Alors ben là-dessus, on s'en va en pause publicitaire. Je vous rappelle, on est toujours avec Éric Boucher, candidat dans Vanier, Agnès Maltais, candidate dans Taschereau, Hélène Guillemette, candidate dans Jean Lesage, à l'animation François Gécouillard et moi-même, Raymond Poirier. Au retour, on parle environnement, on parle santé, on parle culture, au fil donc des prochaines 20 minutes. Pour l'instant, publicité.
Tous les samedis, CKRL, la radio culturelle, vous propose
Culture Club,
votre magazine culturel animé par François Tremblay. De 12h30 à 14h, on fait le tour du club. Scène locale, musique, cinéma, tendance et découverte.
Culture Club.
Le midi, on se branche culture et on joint au club.
La culture, c'est aussi des saveurs et de la gastronomie. En devenant membre de la radio culturelle, vous bénéficiez de 10% de rabais au café au Bonnet d'Âne, au café de la Poste et au café Napoli. De 15% de rabais au café L'Abraham Martin, au café resto L'Écologue et au restaurant Pop d'Orsay. Ça n'a jamais été aussi bon d'être membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10.
L'attente, effectivement, c'est... Il y a une certaine sérénité. Si l'attente est sereine, effectivement, si c'est l'attente de quelque chose qu'on sent qui va venir, ou si cette attente est, d'une certaine manière, une résignation heureuse, ça peut être un certain bonheur.
Le temps passe et elle attend. Elle attend.
Thomas Hellman nous parle de l'attente et de l'avancée à Sentier Secret, mardi 27 novembre à 10h.
En collaboration avec les productions Strada, le Café Babylone vous convie au retour de la série Café Amman tous les jeudis à 20h30. Musique de Bretagne, country yodel agricole, folklore américain, musique grecque, musique indienne, jazz et bien d'autres. Concert acoustique tous les jeudis dès 20h30 au Café Babylone, 181 rue Saint-Vallier-Est. Entrée 10$ incluant une bière de la Barberie. Détails sur le site des productions Strada, strada.ca.
Vous écoutez CKRL, la radio culturelle, au 89,1.
Avant 9h, tout est possible.
Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, 8h09. Nous sommes toujours en rencontre électorale avec Agnès Maltais dans Taschereau, Hélène Guillemette dans Jean Lesage, Éric Boucher dans Vanier, tous trois candidats du Parti québécois, et à l'animation, bien entendu, Raymond Poirier et François G. Couillard.
Alors, moi, j'ai une question très simple. Donc, et le Parti québécois s'est prononcé contre les PPP, donc les partenariats public-privé en santé. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il faut retirer les PPP en santé.
Parce que ce sont des coûts faramineux, parce que c'est une manière de privatiser la santé. D'autant que le Parti libéral avait, quand il a parti les PPP, disait que ce serait seulement des infrastructures. En plus, maintenant, ils font de la gestion de CHSLD en Montérégie. Alors, c'est une privatisation à dose de la santé. C'était supposé coûter moins cher. Ça coûte une fortune.
Mais quand même, la santé, là, on parle, c'est un budget faramineux. Les hôpitaux, tout ça, ça coûte une fortune. C'est plus que le budget, la moitié du budget national. Il y a un rapport qui est sorti, qui a été tabletté par le Parti libéral, qui dit que, oui, on devrait faire plus de place au privé dans la santé. Et qu'est-ce que le Parti québécois répond à ça?
Dans les trois grands partis, seul le Parti québécois prône et proclame que nous voulons un service de santé public. Notre vision est celle d'un service de santé public. Et on est les seuls. Alors, pas de PPP, puis on va annuler la loi 33 qui a ouvert notre système de santé au privé. Il n'y a jamais eu, on dit qu'on manque de médecins au Québec, il n'y a jamais eu autant de médecins qui se désengagent actuellement du système public et qui s'en vont dans le privé parce qu'on leur a ouvert la porte. On ne monnayera pas notre système de santé et notre santé. Quand tu as un diagnostic qui te dit que tu es malade, c'est ton diagnostic qui te place en quelque part dans le système de santé, pas la grosseur de ton portefeuille.
Et on nous dit, par exemple, en fait, que c'est un peu le PQ qui a ouvert la porte à la santé en faisant ses départs massifs à la retraite, là, il y a de ça quelques années.
Aucun rapport. Ça je m'excuse, là, pas du tout. Aucun rapport. Les médecins qui étaient là, ils étaient à 2 ans de la retraite et ça fait 11 ans, fait que ça fait 9 ans qu'ils seraient plus dans le portrait. Les infirmières, c'était l'ordre des infirmières qui avait décidé que c'était qu'on avait plus besoin d'infirmières. Ça a été une erreur, on l'a tout repris, mais c'était une recommandation de l'ordre des infirmières. Mais ça fait 11 ans. Mm-hmm. Ça fait 6 ans que le Parti libéral est au pouvoir. Combien de temps il va pouvoir se cacher, le Parti libéral? Combien de temps il va pouvoir dissimuler les décisions qu'il a prises? Il savait, en 2003, Jean Charest, quel était l'état du système de santé quand il a dit « dans 48 heures, il n'y aura plus personne dans les urgences. Dans 48 heures, les listes d'attente vont avoir diminué. » Il savait, ça va faire.
Mais comment le Parti québécois va répondre justement aux hausses de frais en santé?
Nous avons toujours assumé notre système de santé, qui est un assez bon système de santé, merci. Maintenant, il y a des problèmes de gestion à l'interne. Par exemple, dans la région, il y a 20% des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Il faut revenir aux médecins de famille. On peut le faire d'abord en améliorant le système, en leur enlevant les tâches cléricales, en leur enlevant les formulaires, en aidant les infirmières aussi. pour qu'on les, on faut qu'on les soutienne. Deuxièmement, il y a plein d'endroits où on doit agir. Par exemple, maintien à domicile. Comment ça se fait que tout l'argent a été investi ailleurs que dans, entre autres, le maintien à domicile? Quand t'as des lits, t'as, quand les gens sont en maintien à domicile, ils sont pas dans les hôpitaux, ils sont moins dans les urgences, puis là, tu désengorges ton système. C'est ça qu'il faut faire, pas aller au privé.
Mais au niveau des médecins de famille, si on précise un peu, donc on dit un médecin de famille pour tout le monde, oui, il y a des médecins, oui, si on allège un peu la tâche, ils vont pouvoir prendre un peu plus de patients, mais reste que globalement, de A, comment on fait pour forcer les médecins de prendre plus de patients, de B, comment on fait pour leur dire, ben, allez vous établir à des endroits X, Y, Z, venez à Québec, allez pas à Montréal, et de C, est-ce qu'il y en a assez dans les facultés de médecine pour venir combler ce besoin aussi au fil des prochaines années?
Il y en a assez, mais ils deviennent pas médecins de famille. On a dévalorisé le métier de médecin de famille. C'est ça le problème. Dans les facultés, on leur dit de devenir ultra spécialisés. Mais on a le médecin de famille, c'est la base du système. Il y a assez de médecins si on en ramène à être médecin de famille. Alors comment on va faire? On va travailler ça, c'est à voir avec la Fédération des médecins omnipraticiens.
Okay. Et... En fait, au niveau des garderies, peut-être, on fait le saut vers des garderies si on reste un peu dans le domaine de la santé, de la famille. Vous dites, en fait, un enfant, une place, vous l'avez souligné en début d'entrevue, notamment. Il y en a déjà qui disent que le programme des garderies à 7 $, c'est trop coûteux et qu'au bout du compte, ça n'a pas nécessairement l'effet escompté. C'est pas les moins fortunés qui sont les plus avantagés par ce système-là. C'est des critiques que j'ai lues. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un programme qui va coûter trop cher et que c'est un luxe, dans le fond, qu'on n'a pas nécessairement les moyens de se payer?
En période, ces programmes comme la santé, le gouvernement Charest qui nous disait à l'époque qu'il était prêt à remettre le système de santé, là, je fais une petite parenthèse de retour sur la santé, on a vu que dans la façon dont on a abordé tous les dossiers, on a contribué à dégrader le système de santé de façon à ce qu'on en vienne peut-être à croire que ce système ne marche pas. Là, on voudrait jeter le bébé avec l'eau du bain. Une des grandes qualités des Québécois, c'est le principe de solidarité. Et là, on parle encore une fois de situations financières difficiles. Et le système de santé, c'est un acquis précieux. Et on veut pas se retrouver avec, comme aux États-Unis, avec 10% de la population qui sont même pas capables de se payer une assurance privée pour avoir accès à quelque chose qui est fondamental et que tout le monde devrait avoir accès. Les problèmes, effectivement, sont d'ordre de fonctionnement administratif. Il y a façon de travailler. Mais ça prend une volonté politique pour faire avancer les choses et régler ce qui est là plutôt que le laisser dégrader et faire croire finalement à la population en bout de ligne que le système de santé ne marche pas, il coûte cher, il coûtera encore plus cher dans le privé si on fait le calcul des coûts globaux. Les services de les places en garderie en ce moment dans la région de Québec avec un taux de presque un plein emploi, 3% de chômage, on se doit de faire en sorte que toute personne qui a des compétences et la capacité d'aller sur le marché du travail, de faciliter son accès au marché du travail. Et les services de garde, c'est pas seulement nous, on a un paquet d'idées pour faciliter l'accès, diversifier l'offre, entre autres. On parle souvent de 9 à 5, mais il y a une grande portion de la population qui ont des horaires atypiques et de plus en plus de gens qui vont avoir des horaires atypiques. Donc, il faut étendre l'offre les soirs, la fin de semaine, faciliter l'implantation de services de garde en milieu scolaire, en milieu de travail, pour que de plus en plus de gens aient accès. Et ces gens-là, qui, grâce aux services de garde accessibles et abordables, vont pouvoir réintégrer le marché de l'emploi le plus rapidement possible, les femmes, entre autres, après un accouchement, et vont pouvoir contribuer à l'économie, générer des revenus. Et c'est un système qui est rentable pour l'économie.
Donc, ce que vous nous dites, dans le fond, essentiellement, c'est qu'avec les gens qui retournent sur le marché, dans le fond, ça va permettre peut-être d'améliorer un peu les rentrées d'argent.
Absolument.
Et donc de se payer ce système-là.
Ces gens-là paient des impôts et on parle de système qui coûte cher, mais il faut calculer, il faut avoir la vision, ce que le gouvernement libéral n'a pas, pour réaliser à quel point, en bout de ligne, c'est payant pour toute la société de mettre de l'avant des programmes comme celui-là.
Excusez-moi, parce que là, le temps file, là, mais j'aimerais ça qu'on parle d'éducation. Le Parti libéral propose d'indexer les frais de scolarité. Le Parti québécois propose de geler les frais jusqu'à temps qu'il y ait un sommet sur l'éducation. Moi, je regarde ça, je me dis, coudonc, ça serait pas plus simple tout simplement de mettre les frais post-secondaires, de mettre l'éducation gratuite?
On est en Amérique du Nord et toutes les universités on charge des frais et nous sommes les frais les plus bas d'Amérique du Nord. Moi, mon problème, là, je vais vous dire, c'est pas que les frais soient... Qu'on se compare, là, puis qu'on dise, bon, les frais sont bas, il y a des gens qui disent qu'il faut les monter, nous, on dit qu'il faut les geler, tout ça. Qui va à l'université? Puis là, il y a une étude récente qui est sortie qui t'apprend que finalement, plus tu as déjà des parents éduqués, plus tu as déjà des parents formés, plus tu vas aller à l'université et que la classe moyenne, il va beaucoup moins. Et puis quand on tombe chez les défavorisés, tu vas encore moins. Comment on va faire pour avoir un système d'éducation égalitaire? Comment on va faire pour que toute personne qui a envie d'étudier, puis qui y croit, puis qui a des compétences, puisse les exploiter à son plein potentiel.
Une des solutions, ce ne serait pas de mettre l'éducation gratuite?
Non, pas nécessairement. C'est pour ça qu'on va geler les frais de scolarité et qu'on va faire immédiatement un sommet. Et c'est les jeunes du PQ qui nous ont demandé ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on veut regarder. Par exemple, contribution quand tu commences à travailler. Ce qui ferait que tu commencerais à rembourser quand tu as un salaire équivalent à un certain niveau. C'est des solutions extrêmement intéressantes, extrêmement progressistes, extrêmement novatrices. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi le nombre de profs qu'on a dans les universités. Il faut regarder tout ça. Et c'est les jeunes du PQ, c'est vraiment notre commission jeunesse qui nous a dit, on veut s'asseoir pour développer des nouvelles façons de comprendre ce qui arrive à l'université. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accessibilité, la chance égale, la justice sociale. C'est ça que je veux voir là-dedans.
Et en même temps, c'est toujours la même rengaine quand on parle de ces projets-là. Il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, mais justement, si on gèle les frais, on coupe des revenus aux universités, ça nous coûte plus cher. Les garderies, ça nous coûte cher. Les médecins de famille, ça nous coûte cher. » Alors, un peu, dans le fond, la question qu'on entend en situation de crise économique, comment on peut encore justifier qu'on peut se payer, qu'on a les moyens de se payer, qu'on doit se payer ces systèmes-là?
Quand on était en pleine lutte pour le déficit zéro, où tout le Québec a mis la main à la pâte et a dit « OK, on fait le déficit zéro », c'est là qu'on a créé les centres de la petite enfance, et c'est Pauline Marois qui l'a fait. Et elle les a créés, un programme, oui, qui coûte cher, mais qui aujourd'hui, à peu près tout le monde y adhère. Puis les parents disent, ils veulent une place, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir une chance de retourner sur le marché du travail. Ça a été fait en plein déficit zéro. On a toute la crédibilité qu'il faut maintenant pour dire « c'est un investissement ». C'est un investissement dans la qualité de vie, c'est un investissement dans la santé, c'est un investissement dans l'avenir des enfants. C'est un bon investissement.
Combien coûterait justement la société de ne pas avoir ces infrastructures? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser aussi.
Et allez-y, oui.
J'aimerais ça qu'on parle de prévention, parce que la prévention, c'est vraiment un investissement dans la santé. La santé, là, si elle coûte aussi cher que ça, là, c'est peut-être qu'il y a un problème d'organisation du travail. Et je pense que les libéraux sont fautifs à ce sujet-là parce que, bon, je vous donne un exemple. Dans le comté de Jean-Lesage, il y a le centre de réadaptation Hubal-Villeneuve, qui est un centre de réadaptation de deuxième ligne en dépendance. Ce centre-là a eu un projet avec l'hôpital de l'Enfant Jésus pour dire, OK, on envoie des équipes spécialisées à l'hôpital pour voir s'il n'y aurait pas des gens qui consultent pour des problèmes qui sont pas le problème principal. Alors, les gens qui ont des dépendances n'avouent pas leur dépendance. Ils vont consulter à répétition pour toutes sortes d'affaires. Et ils ont beaucoup réduit l'engorgement dans les salles d'urgence avec ça. C'est une forme de prévention. C'est la même chose pour les services de garde. Les services de garde, c'est une forme de prévention parce que, ben là, je vous ramène sur le gouvernement libéral qui a coupé une bonne partie des services psychosociaux, mais les enfants qui vont en service de garde, là, le dépistage se fait sur la malnutrition, il se fait sur la pauvreté, il se fait sur la violence, il se fait sur un paquet d'affaires qui peut amener à engorger le système de santé. santé. Donc, c'est un investissement. Et c'est un investissement aussi en éducation parce que ces enfants-là, ils s'en vont à l'école après. Et ils se retrouvent dans des classes avec déjà tout petits, là, en maternelle, des gros problèmes de comportement. Or, il faut absolument avoir des services psychosociaux pour pouvoir prévenir ces problèmes-là qui finissent de toute façon par engorger le système de santé. Donc, c'est un investissement.
Et globalement, mais en fait, si on élargit un peu vers les questions sociales pour en venir ensuite aux questions environnementales, on parle justement d'un investissement. On a vu, il y a quatre ans et demi à peu près, on a adopté une loi visant l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les groupes qui s'intéressent à cette question-là ont fait un bilan assez sévère du gouvernement Charest. On dit, regardez, le Québec s'est appauvri au fil des 4 prochaines années. Du côté du Parti québécois, comment on envisage de renverser la vapeur face à cette loi-là pour réussir peut-être à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés d'ici 4 ou 5 ans?
Rapidement, on veut mettre sur pied une politique nationale de lutte contre l'itinérance. Donc, on va prendre les plus pauvres, ceux qui sont dans la rue, puis à Québec, on en a 10 et 12 000, vous le savez, qui viennent dans les soupes, dans les comptoirs alimentaires, dans les soupes populaires. 10 à 12 000, dont certains dorment dehors. J'en ai rencontré une avant-hier. Alors ça, c'est vrai. Alors, politique de lutte contre l'itinérance, on vient de faire une commission parlementaire. Il y a plein de suggestions qui sont sur la table, premièrement. Deuxièmement, politique pour aider les aînés, parce qu'on a des problèmes. Les aînés aussi voient leurs revenus diminuer. Alors, il faut trouver le moyen de les aider à domicile, d'être présents, de faire de la prévention sur leur santé, tout ça. Alors, logement social. Il faut investir à nouveau dans le logement social. Alors, on est de la bataille du logement social. C'est une des choses dans lesquelles le Parti québécois s'est vraiment régulièrement engagé. On va se donner des politiques de logement social sur 5 ans.
Ah oui, le logement social, on dit qu'il s'en est pas construit depuis longtemps.
Les HLM qui ne sont pas construits depuis longtemps parce que le fédéral, en 94, a coupé dans les HLM et depuis ce temps-là, le fédéral n'a jamais réinvesti. Alors, la journée où on sera souverain, regardez bien, on va ramasser notre part du gâteau qui est à la SCHL, qui engrange les surplus, puis on va recommencer à faire du logement pour notre monde.
Et si on regarde à Québec, si on parle de logement social, est-ce que vous avez chiffré un peu les attentes que vous auriez avec un éventuel gouvernement péquiste, là, en 4 ans, combien de logements vous avez créé dans la région?
Écoutez, je peux pas vous le dire en 4 ans combien de logements on suivrait dans la région. J'ai eu récemment des données, là, des groupes. Mais ce qui se passe à Québec actuellement, c'est que les groupes ne sont plus capables d'avoir de la vision de développement. Des coops ou des logements, c'est au moins un 5 ans. Ça prend 3 à 5 ans avant de se faire. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs d'avoir des budgets dans 3 ans. Mm-hmm. Alors ils ne peuvent plus concevoir. Fait que peut-être qu'on peut en faire beaucoup plus que ce qui est dans les cartons actuellement. Il faut avoir une vision d'ensemble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité quant au budget en logement social. Et c'est ça qu'ils disent les groupes. C'est pas le nombre, c'est la sécurité. Le nombre va suivre ensuite.
Et en même temps, il y a un problème d'espace aussi de plus en plus, et c'est valide à Québec, c'est valide dans d'autres villes aussi. Il y a moins d'espace dans les quartiers centraux où les populations sont peut-être un peu plus appauvries. Alors, comment on fait pour trouver des endroits pour les construire, ces logements-là aussi? Ça risque d'être une autre question auquel on aura à répondre.
Il y en a de la place à Destimoville.
Il y a même un beau grand espace sur Destimoville.
Et puisqu'on parle de logement, de ces dossiers-là, on parle également dans la plateforme du Parti québécois qu'on a l'intention d'appuyer des projets d'intervention sociale, de prévention à la violence et de lutte à l'exclusion. Est-ce que vous avez des exemples à Québec de projets qui pourraient justement être appuyés?
Écoutez, j'ai parlé de politique nationale sur l'itinérance. On va parler aussi de toute la difficulté qu'on a à Québec ou dans les quartiers centraux. Il y a de l'itinérance. Il y a aussi des problèmes de prostitution. Et les gens se sont peut-être un peu trop habitués à vivre avec ça. Moi, je pense que ça, c'est un combat, c'est une bataille que l'on doit mener.
Donc, appuyer des projets comme le PIPQ, par exemple.
Oui, le PIPQ qui était en demande et qui a été coupé par les libéraux, qui leur avaient donné une subvention pour les aider quand Marc Bellemare était là, puis qui ensuite l'a vu se faire diminuer. Alors, c'est ce genre, les organismes communautaires sont sur le terrain. Ils aident le monde. Nous, on doit aider le monde qui aide.
C'est quoi le PIPQ exactement?
Projet Intervention Prostitution Québec.
Il y a aussi un autre exemple qui est celui, pour faire un lien avec le logement, il y a celui d'Agir en santé mentale, un projet qui s'appelle Clé en main et qui est un projet pour les personnes les plus démunies qui ont des problèmes de santé mentale, un projet d'allocation au logement. C'est un projet d'allocation au logement, allocation supplémentaire à ce qu'ils reçoivent déjà, mais qui est imbriqué dans tout un réseau de soutien social. Alors, des gens qui peuvent soutenir sur le plan des services sociaux, là, ces gens-là.
J'aimerais ça peut-être qu'on parle un peu d'environnement. Alors, on parlait beaucoup de questions sociales. Donc, là, je sors un peu de Québec, de la région de Québec. Donc, le PQ propose l'exploration pétrolière des îles de la Madeleine. Donc, je vais citer Pauline Marois. Elle dit qu'exploiter le pétrole en soi, si ça sert des biens et qu'ils n'ont pas d'effet sur les gaz à effet de serre, ce n'est pas nécessairement mauvais. Notre objectif, c'est d'améliorer notre bilan énergétique. Pas de consommer plus de pétrole, c'est d'en consommer moins. Moi, je trouve ça drôle qu'on propose d'explorer pour trouver du pétrole, mais en même temps qu'on veut moins consommer de pétrole. Je trouve que c'est paradoxal un peu.
L'objectif, c'est de faire moins de gaz à effet de serre, effectivement. Maintenant, il y a probablement, sous le Saint-Laurent, mais aussi dans les terres du Québec, du pétrole et du gaz. Ça ne sert pas qu'à faire de l'essence du pétrole, ça sert à faire du plastique, ça sert à faire toutes sortes de choses. Le pétrole, il est entré dans nos vies. Alors, tout en voulant diminuer la consommation automobile, on a une richesse qui est là. Est-ce qu'on l'exploite? La grande question, nous, ce qu'on dit, c'est, oui, il faut examiner la possibilité de l'exploiter, tout en sachant une chose, nous ne ferons pas de gestes qui, environnementalement parlant, pourraient être un désastre. Je pense aux îles de la Madeleine qui sont tout proches, des choses comme ça. Mais il serait temps qu'on examine cette richesse puis de voir s'il y a moyen d'aller la chercher sans perturber l'environnement. C'est ça la question. Puis savez-vous pourquoi on n'en parle pas depuis longtemps au Québec? Parce que, regardez bien, Old Dairy, le puits de gaz ou de pétrole qui est proche des îles de la Madeleine, il est exploité actuellement par Terre-Neuve. Ça a tout été payé, puis par l'île du Prince-Édouard, ça a tout été payé par le gouvernement fédéral. Ils ont fait Hibernia et tout. Nous, on veut y aller. Ils nous refusent l'accès. Et savez-vous pourquoi on ne peut pas y aller? Parce que l'eau est fédérale dans le Saint-Laurent. L'air est à nous autres, le sous-sol est à nous autres, mais l'eau, entre les deux, entre nous et ça, il y a de l'eau et le gouvernement fédéral nous refuse l'accès. Hey, les Québécois, ça vous tente pas de régler un problème qui s'appelle le gouvernement fédéral qui nous empêche systématiquement de développer notre vision du Québec et de notre développement. Alors,
mais si on vote pour le PQ présentement, on vote pas pour la souveraineté, c'est dans un prochain mandat. Est-ce que c'est un peu paradoxal aussi?
Je ne dis même pas que c'est dans un prochain mandat. Okay. C'est dans notre vision. On garde le cap sur la souveraineté. On garde le cap sur la souveraineté. C'est pour ça que je ne me gênerai jamais d'en parler dans des entrevues comme ça, quand je vois ou quand on peut montrer le problème. C'est-tu niaiseux un peu? L'eau du Saint-Laurent ne nous appartient pas, on ne peut pas traverser pour se rendre. Alors, c'est le genre de choses-là que il faut qu'ils entendent.
Mm-hmm. Pour l'instant, la souveraineté, c'est quand même loin. C'est un projet qui est difficile à atteindre, mais il va falloir travailler quand même sans la souveraineté. Il faut que le Parti québécois, s'il a le pouvoir, il va falloir qu'il gère les problèmes en s'entendant avec le fédéral, finalement.
On est habitué. C'est nous qui avons rapatrié l'entente sur la main-d'œuvre. C'est Pauline Marois qui a réussi le seul amendement constitutionnel. On a une culture de la victoire au PQ, on n'a pas une culture de la défaite comme au Parti libéral.
Alors ben, là-dessus, on prend une pause publicitaire. On n'a pas terminé le dossier environnement, alors on le poursuit au retour. Toujours à l'antenne de CKRL, on reste François Gécouillard et moi-même, Raymond Poirier, en compagnie d'Éric Boucher, candidat dans Vanier au Parti québécois, Agnès Maltais, candidate dans Taschereau, Hélène Guillemette, candidate dans Jean Lesage. On se retrouve dans deux petites minutes.
Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4$ au Théâtre Périscope, de 3$ au Théâtre de l'Abordée. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10.
Capitaine Caverne présente la deuxième édition du championnat d'impro mixte de Québec. 16 improvisateurs s'affronteront dans un tournoi éliminatoire de mix 1 contre 1. Yves Bernard, Martin Boily, Marie-Christine Bouillon, Simon-Pierre et Sylvain Derasme, Marie-Soleil Dion, Benoît Gagnon, Olivier Godet-Savard, Benoît Gignac, Corinne Giguère, Daniel Gosselin, Patrick Guérard, David Kelly, Jean-Philippe Lehoux, Éric Marcoux et Pierre Turcotte. 16 joueurs, un seul champion. Le samedi 29 novembre à 20h à la salle Hydro-Québec du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Informations et réservations, Capitaine Caverne à commercial vidéo.
Ici Alexandre de Rome Bruno Mongrain Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr.
La cour. Bienvenue.
Salut, c'est Jean-Philippe Deschênes. Je sors de ma boîte un instant et je vous invite à ne pas manquer l'émission Ma boîte à cassettes mardi prochain, 14h30.
Non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Vous écoutez CKRL, la radio culturelle au 89,1.
Avant 9h, tout est possible.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Avant 9h, tout est possible à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro en compagnie de François G. Couillard et bien entendu en compagnie également de trois candidats du Parti québécois, Agnès Maltais, Hélène Guillemette, Éric Boucher. Et ben on revient un peu à l'environnement, on jette un coup d'œil plus du côté de la capitale nationale, notamment dans votre plateforme au Parti québécois. Vous mettez de l'avant un budget de 30 millions de dollars pour aider au transport en commun dans la région. Une série d'initiatives, on parle de stationnement près des terminus, d'appui au parcours 802-803, d'améliorer les liens interrives, de faire des voies réservées sur certaines artères. On parle du pont Pierre-Laporte, on parle d'autoroute également. Et question justement sur ces voies réservées. Donc, sur papier, c'est bien beau, mais dans l'application, honnêtement, je me demande comment on va faire pour convaincre les gens, les automobilistes, de mettre de côté une voie et comment on va mettre ça en application.
Il faut, on n'a pas le choix, les questions environnementales doivent être mises de l'avant et les voies réservées, c'est une façon d'encourager le transport en commun. On va avoir un accroissement de la population de la région de Québec a relativement stagné au cours des dernières années et là, la situation économique, juste dans ma circonscription, là, dans un quartier près de Le Bourgneuf, il y a peut-être 5000 nouvelles familles qui vont venir s'installer dans ce coin-là, donc beaucoup d'immigrants, c'est une des circonscriptions qui est peut-être appelée aussi à devenir une des plus multiethniques de Québec. Et dans ce secteur-là aussi, on a l'autoroute Robert Bourassa, mais sur toutes les artères principales de la région de Québec, on va devoir... on était chanceux d'une certaine façon parce que l'infrastructure routière de la région de Québec avait été prévue dans les années 70, a été construite pour une population d'un million d'habitants. Donc, on n'a pas encore des bouchons de circulation comme on en a dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord. Et les gens sont tentés d'utiliser leur voiture parce que le système de transport en commun en ce moment n'est pas comparativement beaucoup plus rapide, beaucoup plus confortable, efficace. Il faut mettre des mesures de l'avant de façon à le rendre tellement attrayant que nous, citoyens, décidons de l'utiliser de façon... Et ça, il faut ajouter des dessertes, des nouveaux parcours, mais les voies réservées, entre autres, c'est une excellente façon d'accélérer... Tout est une question de temps. On vit dans une société où tout est accéléré. Les familles ont de moins en moins de temps.
Pour ce qui est question des stationnements étatiques, moi, je trouve ça intéressant comme idée, mais je me demande si ça va être vraiment intéressant pour les conducteurs. Si j'ai bien compris, dans le fond, un stationnement incitatif, c'est un stationnement qui est plus près de la ville, donc les gens viennent de la banlieue. Non, c'est pas ça?
Non, un stationnement incitatif, c'est un stationnement qui est à l'arrêt des autobus express des 800, mais à l'autre bout de la ligne, en banlieue au contraire. Les gens, ce qu'ils veulent, là, c'est pouvoir prendre l'autobus, parce que c'est bien plus facile rendu au centre-ville, ça fonctionne vite, ça va rapidement, t'es pas pris dans les bouchons. Mais rendu à l'autre bout pour être chez eux, s'ils ont l'auto proche, ils peuvent aller ramasser l'enfant à la garderie, aller faire l'épicerie. Okay. C'est vraiment juste faciliter la vie des gens.
Mais croyez-vous que ça va être vraiment intéressant? Est-ce qu'il y a eu des endroits dans le monde où ça a fait ses preuves?
J'ai habité à Ottawa quelques années, puis il y a ces systèmes-là de stationnement et ça fonctionne très bien. Les gens partent d'une banlieue et ils vont finalement à un site où il y a des voies rapides, des accès rapides, les métrobus par exemple. Ils vont laisser leur auto là et là, ils prennent l'autobus pour se rendre et... finalement au centre-ville et ça fonctionne très très bien. Il faut le mettre de l'avant et les gens se rendent compte à quel point il y a des avantages parce qu'il y a toutes sortes d'autres coûts. Hein. Il y a le stationnement au centre-ville qui va être appelé à augmenter aussi. Donc il y a toutes sortes d'autres coûts qu'on calcule pas dans le transport.
Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une affaire de mentalité aussi à travers ça. Mais pas à Québec, tout dépendant de qui on parle, tout dépendant de ce qu'on écoute, les gens sont très attachés à leur auto. Il y a des gens qui sont très attachés. Il y a encore des gens qui disent, face à la piste, les pistes cyclables, que la route, c'est pour les autos, c'est pas pour les vélos, c'est pas pour les autobus, que c'est des niaiseux qui prennent le transport en commun. Ça se dit encore à Québec. Moi, ça me décourage personnellement, mais ça se dit encore. C'est quelque chose avec quoi on va avoir à travailler aussi. Le monde, il y a des gens qui sont ouverts au transport en commun. Il y en a d'autres qui sont complètement fermés.
J'étais affecté au dossier environnemental pour Québec Hebdo, puis c'est vrai, j'entendais cette... Mais en même temps, beaucoup de gens qui sont des fervents de l'automobile et qui me disaient, moi, jamais je vais me départir de mon automobile, c'est ma façon, étaient pour le transport en commun. Ce qu'ils me disaient, c'est, mettez-les tous dedans, puis moi, comme ça, je vais pouvoir utiliser mon auto, puis j'attendrai pas dans les bouchons. Donc, même les gens qui sont extrêmement réfractaires à utiliser le transport en commun, en général, se rendent compte qu'on s'en vient avec d'énormes problèmes, comme dans d'autres grandes villes de bouchons, et ils vont être pour aussi, en général, pour la construction et l'investissement dans le transport en commun, simplement pour qu'ils puissent utiliser leur véhicule de façon normale.
Il faut avoir des visions. Écoutez, quand on a maintenant des voies réservées pour les autobus sur certaines heures, qui sont les voies pour les réservées pour les 800, 801, 102 et 3, 4, je pense qu'on est rendu. Mais au début, ça chialait, puis ça disait, ça se pourra pas, ça n'existera pas. Puis aujourd'hui, il n'y a personne qui remet ça en question. Il faut juste, faut amener les gens à bouger. Ils vont être d'accord.
Vous dites qu'il y a des personnes qui remettent les choses en question, mais d'un autre côté, il y a une rumeur, par exemple, sur le boulevard René-Lévesque qui allait étirer les heures de voie réservées pour les autobus. Il y a des gens qui ont dit, bah, aussi, on va construire une piste cyclable là-bas. Et là, les commerçants se sont dit, non, ça n'a pas d'allure, enlevez pas de stationnement. Si on coupe l'auto au centre-ville, on tue le centre-ville. C'est des commerçants de la rue Cartier qui avaient dit ça la semaine dernière. Est-ce que, en fond, vous dites que les gens sont ouverts à des voies réservées, mais en même temps, ça leur fait peur d'augmenter le service aussi?
Je dis que les gens, il y a quelques années, ne pouvaient pas concevoir les voies réservées. Il y avait eu la même levée de bouclier. Aujourd'hui, on a un système de transport en commun avec les 800 qui fonctionne beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'avant. Je dis donc que quand on s'assoit ensemble et qu'on cherche des solutions, c'est municipal cette fois-ci, là, c'est le réseau des transports en commun, c'est à eux à faire le travail de conciliation des intérêts puis de tout le monde. Mais nous, on est là pour développer le transport en commun. Le Parti québécois, il veut du transport en commun.
On est toujours dans le volet environnemental. Parlons un peu de l'incinérateur. Donc, il y a eu un relevé en septembre qui a révélé qu'il y avait 20 fois la norme de dioxine de furane qui était émise, 5 fois la quantité permise de monoxyde de carbone. Donc ça cause des maladies de peau, des troubles hépatiques, le cancer, c'est dangereux pour les femmes enceintes, les cardiaques. Il y a seulement Québec solidaire qui a proposé de fermer l'incinérateur. Qu'est-ce que le Parti québécois propose? Je ne l'ai pas entendu à ce sujet-là.
Écoutez, ça fait longtemps, j'étais à toute la commission parlementaire où on a entendu la Ville de Québec, où j'ai questionné sur l'incinérateur qui est juste de l'autre côté de la ligne de ma circonscription, là. Mais justement, ces dioxines-là, ils tombent sur la tête des gens qui vivent dans mon comté. Alors, j'ai eu bien des discussions, j'ai interpellé. Si on a réussi à découvrir ça, c'est parce qu'on a mis de la pression sur le fait qu'il devrait y avoir plus souvent des relevés. On va y surveiller très près, de très, très, très près. Il va falloir régler un problème, toutefois, celui de la récupération et du compostage. Tant que nous ne nous dirigerons pas de façon intensive vers le recyclage des déchets, vers le compostage, on va être obligé de brûler. L'incinérateur, il est à côté des quartiers Limoilou. Il est là. La meilleure manière de le faire disparaître, et il faut le faire disparaître, c'est que les villes se mettent au compostage.
Est-ce que vous avez des mesures incitatives pour justement inciter les gens à faire du compostage?
On est là-dedans. Écoutez, ça vient de se terminer. On est en travail avec les villes, avec les municipalités, mais moi, je vous dis qu'il faut développer ce secteur-là. Est-ce que la mesure est prête? Je vais vous dire, je pense que non. Parce qu'il n'y a pas entente actuellement avec les municipalités sur les manières de faire. J'ai assisté à une commission parlementaire où tout le monde est venu tirer la couverte de son côté. Ça prend un gouvernement qui va asseoir tout le monde autour de la table puis qui va dire, bon, comment on fait? Qu'est-ce que ça coûte vraiment? Puis où est-ce qu'on prend un revenu? Mais il faut le faire. Ça coûte cher à la population de Limoilou.
J'avais lu un article dans l'actualité qui disait que le dossier de le recyclage, la gestion des déchets, tout ça, c'était un cafouillis, c'était un fouillis total là, au Québec. Il n'y avait aucun ordre là-dedans.
C'était évident en commission parlementaire. Et ce que j'ai trouvé pénible, et je l'ai dit, ça me fait rire de le répéter, c'est que tout le monde tire la couverte de son côté et que les municipalités, il y a des municipalités qui ont trouvé le moyen de bouger sans argent neuf. Alors, il y a quelque chose à faire immédiatement. On est déjà capable de prendre ça en main. Moi, j'ai entendu de la bonne volonté de la Ville de Québec, honnêtement, là. Sauf que, comme toutes les villes se tiennent, ils disaient, bon, on a besoin de fonds supplémentaires. C'est là qu'il faut du leadership, il faut asseoir le monde ensemble.
60% du sac vert, du contenu du sac vert, c'est des déchets putrescibles. Donc, en aidant les villes à mettre les programmes de l'avant, en les soutenant là-dedans, sérieusement, ben on arrive à réduire une bonne quantité des déchets qui se retrouvent à l'incinérateur en ce moment là, qui est ouvert en ce moment. Mais et il faut être ingénieux, il faut s'asseoir avec les partenaires, puis il faut faire preuve de leadership et de décider de mettre une priorité là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut réduire la quantité de déchets. On parle de gaz à effet de serre aussi, la quantité faramineuse de déchets qui continue d'être acheminée soit dans les sites d'enfouissement aux incinérateurs, même si on augmente le recyclage, même si on augmente la récolte des putrescibles, on a une augmentation toujours des déchets qui sont acheminés. Donc, à un moment donné aussi, comme société, il y a toutes sortes de façons de réduire notre consommation ou de favoriser des façons aussi pour la population et la récolte, et de mettre en œuvre et de travailler à mettre tous les gens ensemble pour mettre des projets de l'avant.
Alors, il nous reste à peu près, mettons, si on dit un dernier 5 minutes, plusieurs questions qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Alors, on va le faire en rafale, dans le fond. Donc, ce qu'on vous demande, on vous lance une question relative assez rapide, une réponse assez rapide, 30 secondes, dans le fond, simplement pour connaître votre position à la base là-dessus. François, je te laisse commencer.
Donc, dans Chauveau, il y a des Autochtones, Hurons, Wendat, qui ont construit des chalets dans un parc sans autorisation du provincial. Donc, ils invoquent le traité de Marais de 1760. Donc, il y a le PQ qui a montré. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ces chalets-là, c'est qu'ils sont construits de façon illégale?
Il faut s'asseoir avec la communauté autochtone, mais tout le monde doit respecter les lois au Québec. Elles sont pour tout le monde.
Au niveau environnemental, on parle encore un peu toujours du dossier Arabaska. Il y a un documentaire là, qui va sortir incessamment là-dessus. Est-ce qu'il est trop tard pour reculer? Est-ce qu'on fait bien d'aller de l'avant, ou est-ce qu'on s'inquiète de ce projet-là toujours et encore?
On peut effectivement s'inquiéter. Il y a eu une mobilisation incroyable de la communauté dans ce dossier-là. En fait, en ce moment, de toute façon, l'approvisionnement en gaz des Russes est compromis. Mais oui, il faut rester vigilant par rapport à ce dossier-là et s'assurer que ça se fait selon les règles.
Il y a deux conditions qu'on pose. Il y a une étude sur la sécurité des personnes qui n'a pas été faite sérieusement. Deuxièmement, on n'a même pas de stratégie énergétique, on n'a aucune idée, il n'y a pas d'études sur comme quoi on a vraiment besoin de ce gaz. Deux conditions qui sont très, très, très sérieuses.
Pour ce qui est de Lévis, tous les partis ont donné leur plan pour Québec. Il y a beaucoup de millions qui sont promis pour la ville de Québec, mais Lévis se sent un peu abandonné dans le domaine des transports en commun ou le chantier de la Lévis. Qu'est-ce que le Parti québécois propose?
Le lien interrive. Nous allons régler le problème. Linda Goupil, quand elle était ministre, avait trouvé une solution. C'est Daniel Roy, Marinelli elle-même, la mairesse de Lévis, qui l'a dit. On était près de la solution. Ça a été abandonné par les libéraux. On va reprendre ça en main. Jimmy Grenier, candidat du Parti québécois dans Lévis, va faire le travail.
On a beaucoup parlé à l'élection fédérale du projet du TGV Québec-Windsor. Récemment, dans un article du Soleil, on nous disait, regardez, Québec-Montréal, c'est pas rentable, c'est pas viable, ça va causer des problèmes au trafic aérien, peut-être au trafic d'autobus. Est-ce que c'est un projet qu'on compte défendre encore, ou est-ce qu'on fait un recul du côté de ce projet-là?
Pas de recul, on avance, voyons donc. Quand on se met à l'échelle québécoise, le pôle économique, c'est Québec-Montréal. Ce TGV est soutenu autant par les chambres de commerce que par les citoyens. Alors, on y va. Il est temps qu'on développe le ferroviaire, parce que quand tu mets ça aussi, tu ajoutes le coût environnemental. S'il n'a pas été calculé, le coût environnemental. Et il est temps de faire ça.
L'industrie Abitibi-Bowater a fermé récemment. Il y a eu 250 syndiqués à la porte. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
Bien, d'abord, c'est de respecter ces gens-là. Dans ce dossier-là, c'est incroyable. Là. Il va falloir travailler à trouver des façons à ce que ces gens-là soient aidés à réintégrer le marché du travail. Ça, c'est certain. Mais le gouvernement Charest a carrément menti à ses travailleurs en faisant croire qu'ils travaillaient pour eux. Et ça, c'est une aberration dans ce dossier-là. Et ça, c'est quelque chose qui se produirait pas avec le Parti québécois. Nous, on va dire la vérité. On va traverser une situation difficile. On peut pas sauver toutes les entreprises, mais au moins les gens sauront où on est.
Madame Roy a aussi dit publiquement devant les gens de Portneuf, parce qu'on est allé de Donnacona, qu'on va essayer de trouver un projet. On ne demandera pas une haute rentabilité, mais juste rentabilité minimum pour faire que cette ville-là n'ait pas un tel choc si l'usine ferme.
Et ben François, la petite dernière.
Une petite dernière. Donc, je trouve que une question un peu bitch pour finir. Donc, le PQ, le PLQ, on en a parlé hier, justement, tout le monde en parle. Donc, on accuse les deux partis d'avoir des idées très similaires, surtout depuis que la souveraineté, on la met un peu de côté, en tout cas du moins pour les élections. Donc, par exemple, le PQ propose 5000 places de plus dans les garderies que les libéraux. Mais, t'sais, les deux veulent plus de places dans les garderies. Donc, il n'y a plus la liste d'épicerie du maire. Le Colisée en bois, tout le monde est d'accord. Les maintenir les vieux en résidence aussi, c'est pareil. Donc, pourquoi voter pour le PQ alors que le PLQ lui ressemble tellement, finalement?
Il faut voter pour une manière de faire.
Deuxièmement, le parti québécois est le seul parti qui pense que c'est votre maladie qui va faire que vous allez être soigné et non pas la grosseur de votre portefeuille. C'est le seul parti actuellement dans les grands partis, qui peuvent prendre le pouvoir, qui vous garantit que votre système de santé va rester public. Le système est déjà privatisé à 30 %. Les gens qui pensent, là, ouais, mais ça prend du privé, il y a déjà 30 % qui est privatisé, c'est assez.
Et peut-être en terminant, deux petites tournées des candidats. Donc, en quelques secondes, dans le fond, je vais vous demander votre priorité majeure dans votre secteur. Alors, on va commencer, Hélène Guillemette, dans Jean Lesage. Quelle est votre priorité?
Ma priorité, c'est la revitalisation d'Estimoville, mais c'est vraiment dans le cadre d'une vision globale, verte et durable. C'est pas juste des petits projets qui voient jamais le jour, finalement. C'est vraiment une revitalisation sérieuse.
Agnès Maltais, dans Tachereau.
Politique nationale sur l'itinérance. On travaille sur les plus démunis. Ils méritent toute mon attention.
Et Éric Boucher dans Vanier.
Circonscription de Vanier, explosion démographique dans la circonscription, les infrastructures de tout type, services de garde, santé, culturelle, sportive, transport en commun sont déjà déficitaires. Donc il faut commencer à travailler maintenant pour pouvoir accueillir ces gens.
Et on termine l'entrevue avec le slogan en une phrase. Chacun votre tour, pourquoi on vote pour le PQ?
Un enfant, une place.
Une famille, un médecin.
Un entrepreneur, une réussite.
Alors, Éric Boucher, Agnès Maltais, Hélène Guillemette, merci beaucoup à vous trois.
Ça fait plaisir, merci. C'est bien agréable. C'est fun d'avoir le temps de placoter.
Effectivement. Et François G. Couillard, ben, nous, après donc, cette rencontre avec le Parti québécois, demain, on continue de placoter justement avec le Parti vert.
Oui, c'est ça, chercher dans les feuilles. Le Parti vert qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, mais ça va être le fun. On va avoir 1h15 pour leur parler.
Exactement. Alors, François, nous, on se dit à demain.
Et oui, à demain.
Et bien, chers auditeurs, nous, on se dit à dans quelques instants, on s'en va en musique avec Jenny Ferrand. On revient au retour avec un petit coup d'œil sur les actualités locales.